Bonjour et bienvenue sur Radio Pas d'accord, la radio pirate. Nous sommes le 19 janvier 2042, il est 14h30. On a piraté Graphite pour l'après-midi, vous pouvez donc nous écouter sur 94.9 et sur graphite.net. Je suis Bertille et dans le studio, il y a Anouk, Carlota, Chloé, Joris et Morgane. Les militants solarpunk de Radio Pas d'accord ont volé l'antenne pour vous lire les textes écrits par les membres de l'Université populaire, libre, ouverte, autonome et décentralisée, soit le PLOD. Ils sortent tout juste d'un atelier d'écriture qui a duré toute la semaine. On nous annonce à l'instant que le convoi de mécano-vélos est arrivé de Saint-Étienne avec une cargaison de pièces détachées. C'est donc la fin de la pénurie de chaînes et de dérailleurs que subissait l'atelier cyclo. Vous pourrez y passer des 16 heures pour vos réparations. Pour notre cinquième témoignage, on voulait vous emmener voir les dessous de l'industrie des dirigeables. À vous le studio.
Dissimulés entre les feuilles de la façade verdoyante de la résidence universitaire, de petits moineaux avaient fait leur nid sous la fenêtre de la chambre de Mora. Leur doux chant l'avait tiré de son rêve captivant. Son réveil n'avait pas sonné ce matin-là, sûrement encore un faux contact. Ces vieux bidules des années 1980 n'ont jamais été réputés pour la fiabilité des circuits intégrés. Ce n'était pas grave, elle irait le réparer au Fab Lab de l'université. Mara se prépara pour cette journée chargée à l'Upload, l'université populaire, libre, ouverte, accessible et décentralisée. Un détail attira son attention sur son calendrier de bureau. L'anniversaire de Théo prévu dans une semaine. Il faudrait lui trouver un cadeau. Réfléchissant à ce qui pourrait faire plaisir à son meilleur ami, elle sortit de sa chambre et fila vers la cuisine commune. Pour faire le plein d'énergie, elle prit quelques graines et fruits secs en guise de petit déjeuner, ainsi qu'une infusion à l'ortie. Elle était en retard, elle le savait, mais le cours magistral sur les transports ne la réjouissait pas tellement. Ce qui lui plaisait, elle, c'était la bricole. Elle descendit de la résidence à toute vitesse en tyrolienne et emprunta un vélo de la ville pour gagner du temps. Sur la route, elle croisa le vieux Grégoire qui se déplaçait en tic-tic, sorte de tuk-tuk à la sauce compiénoise. Elle se moquait souvent de ses véhicules au principe tyrannique d'une personne tranquillement assise à l'arrière, tandis qu'une autre s'essoufflait à tirer le tout. Mais il fallait avouer que c'était bien pratique pour les personnes n'ayant pas la capacité de se déplacer à vélo par elles-mêmes.
Bonjour à tous, j'espère que les concombres vous ont plu ce midi. Aujourd'hui, le cours portera sur les différentes combinaisons de plantes. Cette technique appelée compagnonnage est née de l'observation et de la pratique. Si je prends l'exemple des légumineuses qui enrichissent le sol en azote, il peut être judicieux de les associer à des plantes qui ont besoin de cet apport, comme les tomates ou les cucurbitacées. De plus, certaines plantes aromatiques, grâce à leurs odeurs particulières, peuvent éloigner, voire éliminer des insectes nuisibles, comme le basilic, qui est un fort répulsif de mouches et moustiques. Il s'associe parfaitement avec les tomates, asperges, poivrons, piments et aubergines. Allez, maintenant c'est à vous de jouer, choisissez une combinaison dans le manuel et plantez-la en respectant les techniques de jardinage. Tous les étudiants mirent la main à la pâte et s'occupèrent en binôme d'une combinaison de plantes. Mora et Théo avaient choisi l'association thym-brocoli. Le thym, planté à proximité, permettait d'éloigner les mouches blanches des brocolis. Après avoir fini leur plantation, le jardinier arriva pour inspecter les travaux finis. « Pas mal, lâcha-t-il. Pour une première, vous vous en sortez bien. »« Merci, c'est pas si dur en fait le jardinage. Il y a des petites techniques à apprendre et puis notre potager se retrouve rempli de bons fruits et de légumes. » répondit Mora enthousiaste. « C'est vrai, mais il y a aussi toute la partie entretien du potager, » objecta le jardinier. « Il y a dans toutes les disciplines des parties moins agréables, mais essentielles, qui nous rendent encore plus fiers du travail accompli. » Le jardinier se tut. Il semblait méditatif. Théo saisit cette opportunité pour s'introduire dans la conversation. Moi, quand je travaille sur le dirigeable, je suis toujours fier du travail accompli. Oh non, pas encore tes dirigeables, s'exaspéra Mora. Vous saviez que les nouveaux dirigeables à panneaux solaires émettaient seulement l'équivalent d'1% des émissions de CO2 d'un avion pour du fret. Théo, reste concentré sur le cours, lui intima Mora. Vous ferez moins les malins quand j'aurai un poste d'ingénieur dans une des usines d'assemblage. Les usines fluviales? Demanda le jardinier intrigué. Oui, elles sont placées à côté des fleuves car les dirigeables ont besoin d'hydrogène. Et pour produire de l'hydrogène, on a besoin de beaucoup d'hydroélectricité, d'où les barrages. Tu parles de l'électrolyse ? Exactement. Le jardinier se tourna vers Mora, puis s'adressa à nouveau vers Théo. Vous m'avez l'air plutôt débrouillard. Vous suivez le cours de recyclage ? Évidemment, répondit Mora. On se verra certainement au cours de demain dans ce cas. Je me suis inscrit récemment, mais bon, j'y connais pas grand-chose, dit-il l'air gêné. T'inquiète pas, on sera là pour t'aider. Au fait... « Moi, c'est Mora !» s'exclama-t-elle. Je m'appelle Émile. Enchanté.
Émile et Maura arrivèrent à la déchetterie à bout de souffle. Ils se faufilèrent par un petit trou du grillage que des rongeurs avaient grignoté. Ils fouillèrent partout dans les tas de matériaux, mais ils n'arrivèrent pas à trouver de quoi fabriquer ce dirigeable. C'est dire, la déchetterie était pleine d'épaves de voitures en tout genre. Il y avait des centaines de volants, de jantes, de sièges amovibles, de portières, mais aucune trace de ballon ou de ficelle. Au bout d'un moment, les deux copains trouvèrent un coin isolé avec de nombreuses boîtes en carton, dans lesquelles ils découvrirent tout ce dont ils avaient besoin, et plus encore. Ils avaient trouvé le Graal. Avec excitation, ils s'emparèrent de quelques vis, une petite planche en bois et du fil élastique. Il y avait aussi une multitude de débris de carrosserie et une petite hélice. « On a presque tout ce qu'il nous faut. Les dirigeables sont fabriqués avec des matériaux biocomposites et de la fibre de carbone. Mais d'après Théo, on les fabriquait avec du bois, l'aluminium et du tissu. On a tout ce qu'il nous faut pour faire la nacelle, les ailes et les moteurs. » Il ne manquait plus qu'un ballon. En cherchant les dernières pièces du puzzle, ils trouvèrent un objet très étrange. Il ressemblait au pal d'une éolienne, mais ses pales étaient arrondies et trouées de la taille d'une main et de couleur fluorescente. « C'est quoi ça? C'est trop bizarre !» s'exclama Maura. « Aucune idée, mais ça pourrait être utile à le désosser et de voir comment ça fonctionne. On dirait qu'il y a un roulement à billes à l'intérieur. » Les deux aventuriers s'amusèrent à faire tourner l'objet dans leurs mains et en oublièrent presque le but de leur expédition. La lumière d'une lampe torche au loin les fit revenir à la réalité. Ils se dépêchèrent de trouver un ballon de baudruche, mais en vain. Une bouteille en plastique de forme allongée était là, par terre. Elle ferait très bien l'affaire. Tous les matériaux étaient maintenant dans leur sac à dos. Ils pouvaient déguerpir.
La semaine suivante, Grégoire, Émile et Maura s'étaient cachés sous les tables de la cantine collective pour faire la surprise à Théo. Celui-ci fut plus que ravi du petit dirigeable bricolé avec amour par ses amis. Après l'avoir suspendu au plafond de la cantine où ils avaient installé leur petite fête, Théo fit un discours de remerciement où il se laissa aller à évoquer avec passion ses projets de dirigeables. Jusqu'à maintenant, nous les avons employés depuis l'effondrement pour transporter du fret à moindre coût énergétique. Mais il faudrait pouvoir passer à la vitesse supérieure en imaginant des transports à moyenne et longue distance. Car pour les modes de déplacement intra-urbains, on est en passe de répondre aux besoins avec les tramways et les vélos. Mais il nous faut aussi envisager les modes de transport de ville à ville pour des passagers. Une métropole ne peut pas rester sans communication physique avec les régions alentour. C'est pourquoi j'ai conçu un prototype économe et spacieux, un peu plus élaboré que mon joli cadeau, ajouta-t-il en déclenchant des sourires. Un modèle qui permettra de... Un des amis de Théo présent à la fête l'interrompit. Hey « Hé Théo, il est joli ton discours, mais concrètement, comment tu vas réaliser ton prototype ?» Ce sera quoi le gaz dans l'enveloppe? Parce que l'hydrogène, c'est dangereux, non? Alors, l'hydrogène, c'est inflammable. Facilement, effectivement. Il y a eu pas mal d'accidents par le passé, dans les années 1920. Mais depuis l'effondrement, la recherche dans l'aéronautique s'est beaucoup penchée sur cette problématique, permettant de grandes avancées sur la sécurité des dirigeables. Et les normes de sécurité ont beaucoup évolué. Elles sont très strictes, les matériaux utilisés sont plus judicieux et le nombre d'accidents quasi nul. Comme pour les avions à l'époque où on en utilisait. Tu peux avoir confiance dans les dirigeables actuels. Ok, je vois. Mais à quoi ils carburent, les dirigeables? Eh bien, par exemple, mon prototype de dirigeable utilise la propulsion humaine. Avec mes super muscles et mon pédalier, je m'envole. Par contre, évidemment, ce n'est pas le système qui est utilisé pour les dirigeables de fret. C'est surtout de la propulsion électrique grâce à des capteurs photovoltaïques. C'était parti. On n'allait plus pouvoir l'arrêter. Et tant mieux, car son enthousiasme était communicatif.
Enchantée, je me présente, Poilito, le poil de masse du foyer étudiant de l'université. C'est la première fois que vous entendez parler un poil à bois. Bon, écoutez, il y a un début à tout, hein. Je vis dans le grand salon collectif où vivent les étudiants de l'Upload. Mon job, apporter de la chaleur à leur corps mis à rude épreuve par l'hiver picard et les pénuries énergétiques. Toutes les salles de l'université ne peuvent plus être chauffées, mais vous pourrez toujours compter sur moi pour vous apporter du réconfort physique et moral. C'est pour ça que j'ai une place spéciale dans le cœur des étudiants. Poilito, qu'ils me nomment. C'est bien sûr ironique, car je pèse plusieurs tonnes, mais je n'ai rien à envier au poil classique, tout rachitique. Ah ça non, au contraire, c'est mon poids qui fait ma force en tant que poil de masse. Laissez-moi vous expliquer. Je me nourris de bois, une ressource locale, abordable et renouvelable. Contrairement au poil classique, qui le consomme lentement et réchauffe directement l'air ambiant, moi je le brûle violemment et le stocke dans la matière qui m'entoure. Il peut s'agir de briques, de pierres, de terre crue, de faïence, bref, n'importe quoi qui soit assez dense pour retenir la chaleur par inertie. L'avantage de cela, c'est que je libère de la chaleur par rayonnement, tel un petit soleil, et ce à faible dose jusqu'à 36 heures après ma dernière combustion. Et oui, il suffit de me nourrir de quelques bûches, et puis vous êtes tranquille pour le restant de la journée. C'est très pratique, notamment quand l'étudiant responsable de lancer ma combustion chaque matin a oublié son tour ou veut faire la grasse mat après une soirée bien arrosée, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en pratique, je ne meurs jamais de faim car les étudiants adorent me nourrir sans cesse. On dirait des grands-parents avec leurs petits-enfants. Faut dire que je suis pas compliquée. Grâce à ma combustion à haute température, je brûle tout type de bois en produisant moins de pollution et ce pour un meilleur rendement par rapport au poêle classique. Alors, vous êtes convaincus? Il n'y a plus qu'à me construire. N'ayez pas peur, c'est facile. Même des étudiants peuvent le faire. Alors, pourquoi pas vous?
Ceci était une émission fiction proposée par l'Université de technologie de Compiègne, Framasoft et Picasoft. L'émission est le résultat du cours d'intersemestre Upload Solarpunk organisé à l'UTC. Retrouvez le déroulé de la semaine de cours sur librecours.net. L'Upload est un projet de Framasoft, une association d'éducation populaire qui propose des outils web alternatifs et des formations à la culture libre. Picasoft est une association compiègnoise d'éducation au numérique libre. Tous les textes ont été écrits par des étudiantes et des étudiants. Ils seront publiés sur framablog.org et sur blog.picasoft.net. Vous pouvez suivre tout cela sur Mastodon, un réseau social décentralisé avec les hashtags Solarpunk et Upload. Vous pourrez aussi nous réécouter sur Peertube. Merci à Anouk, Carlotta, Chloé, Joris et Morgane, et on est de retour vers 15h pour une autre émission.